Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous. Le saviez-vous, seule une entreprise sur quatre recycle ses déchets de bureau en France. Mais tout devrait changer rapidement puisque depuis le 1er janvier, une nouvelle directive oblige les entreprises de plus de 20 salariés à recycler le bois, le papier, les cartons. EasyTree est en bonne position sur ce marché. Sa fondatrice Sandrine Quérois est avec nous dans Le Goût d'entreprendre. Cartouches d'imprimante, ampoules, stylos, papier, carton, etc. EasyTree aide les entreprises à recycler leurs déchets de bureau. Bonjour Sandrine Quérois.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Le Goût d'entreprendre. Vous avez fondé votre entreprise en 2009. Avec en tête, c'était votre première idée, la protection de l'environnement?
Oui, bien sûr. Moi, je suis issue d'un métier de l'environnement. Donc, effectivement, l'idée, c'était de pouvoir proposer aux entreprises des solutions alternatives pour protéger notre planète.
Protéger la planète, c'est-à-dire récupérer les déchets de bureau, papier, carton, etc.
Oui, se positionner sur une niche qui, jusqu'alors, était très peu prisée et sur laquelle, pour autant, il y a beaucoup de volume à récupérer.
Il y a beaucoup de volume. Alors, ça veut dire que les entreprises ne font pas ce qu'il faudrait faire pour la planète. Allez. Dites-nous tout.
Mais comme vous l'avez dit, effectivement, 20 à 25% des entreprises en France ont des actions concrètes pour le tri de leurs déchets. Ouais. Donc ça veut dire qu'il en reste quand même encore beaucoup qui ne font rien, donc qui effectivement mettent tout en ordure ménagère de façon classique, alors que les flux sont assez simples et finalement peuvent assez vite et assez bien se recycler.
C'est-à-dire qu'on peut faire facilement le tri, c'est facile de mettre la cartouche d'imprimante dans le bac à cartouches.
C'est ça, on a beaucoup moins de variétés finalement de déchets d'entreprise qu'à la maison. C'est vrai que c'est quand même principalement le papier, les cartouches, les gobelets. Enfin voilà, une fois qu'on a 4-5 tris, on a à peu près fait le tour de 90% de ce qu'on génère en entreprise, quoi.
Alors pourquoi elles ne le font pas ou elles ne le faisaient pas ?
Ben, je pense qu'il y a un aspect... avant, il n'y avait pas de solution. Donc déjà, voilà. Et puis après, il y a l'impact financier. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, là, tout récemment, il y a des directives qui poussent en ce sens-là. Mais jusqu'alors, il n'y avait pas d'obligation. Mmh. Et aujourd'hui, les collectivités prennent tout en mélange sans souci. Donc pourquoi s'embêter alors que effectivement aujourd'hui, mon flux en mélange est pris en ordure ménagère et va brûler dans l'incinérateur, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement comme solution aux entreprises?
Alors nous, le concept d'EasyTree, en fait, c'est vraiment de proposer des solutions clés en main pour l'entreprise, qui sont donc, nos prestations prennent en charge tout, c'est-à-dire que de l'audit jusqu'à la mise en place des outils, donc on éco-conçoit tous nos outils.
D'accord, c'est vous qui fabriquez.
C'est ça, tout à fait. Enfin, c'est pas nous qui fabriquons, on fait fabriquer.
Ouais.
Mais par contre, c'est nous qui faisons les études. On n'achète rien dans le commerce, quoi, qui existe déjà. Voilà. D'accord. C'est des choses que l'on fait sur mesure et qui est adapté donc vraiment à notre métier. On va mettre en place, collecter en pied de bureau, donc, de façon régulière avec nos propres personnels.
Ouais.
Et puis ensuite, intégrer toute la traçabilité, la sécurisation des documents, puisqu'on broie l'aspect papier. Et la mise en filière directe, hein, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par des intermédiaires. On est en direct après avec les usines pour le recyclage.
Alors justement, on va revenir sur ce que vous nous disiez, mais les usines de recyclage, elles sont où? Comment ça fonctionne? Il y en a en France, mais vous en voyez aussi en Europe?
Alors non, disons que nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est d'être éco-responsable le plus possible. Donc on en voit un tout petit peu en Espagne, ce qui est finalement très proche pour nous.
Ouais.
Et après, c'est de la France exclusivement et le plus local possible. Hein, c'est-à-dire quand on parle de local, pour le papier par exemple, en France, il n'y a qu'une seule usine qui tienne la route et qui recycle du papier recyclé, enfin qui fabrique pardon du papier à base de papier recyclé. Donc, elle est dans le nord de la France. Donc voilà, c'est ce qu'on trouve de plus local. Pour autant, sachant qu'aujourd'hui, 80% ou allez, peut-être 70% de notre papier part encore en Chine et en Inde pour être recyclé. Quoi.
Oui, donc, c'est ça, voilà, tout à fait. Ouais. Alors là, pour le coup, le bilan carbone n'est pas bon. Hein.
C'est pas terrible. Ah, surtout qu'après, il refabrique du papier et nous le renvoie.
Oui, là, il y a un petit souci quand même à ce niveau-là. 120 kilos de déchets de bureau produits par an par un employé de bureau, c'est beaucoup?
Oui, c'est beaucoup, on se rend pas compte, hein, mais c'est vrai qu'au quotidien, on jette beaucoup de papier encore, malgré la numérisation des documents et les mails, etc. On produit encore beaucoup. Donc sur ces 120 kilos, c'est à peu près 80 kilos de papier. Après, il y a quelques piles, quelques cartouches. Malgré tout, les cartouches pèsent, hein, si on les rationalise par rapport au nombre de... les gobelets, bon, ça, c'est pas énorme en poids, mais par contre, ben, au quotidien, multiplié et en volume, c'est important. Il y a également tout ce qui est, je pense, dans ce calcul-là, tout ce qui est déchets alimentaires, hein, du quotidien aussi, hein, puisque ben, quand on mange dans l'entreprise, il y a effectivement une partie de déchets assez conséquente qui reste. Ouais. Donc voilà, hein, donc sur ce... Alors, parce que d'habitude, on parle plutôt de 70 kilos de papier et 120 kilos, je pense que c'est au niveau global.
C'est ça, tout à fait. Est-ce que les employés se sentent concernés par le tri en entreprise? C'est-à-dire, ils le font à la maison et se disent au boulot, oh bon, j'ai pas le temps.
Alors, en fait, on s'aperçoit que la démarche, elle est assez souvent mise en œuvre ou en tout cas incitée par du personnel de l'entreprise, soit la secrétaire. Enfin voilà, donc c'est souvent, en fait, l'idée vient souvent, on va dire, des salariés. Ils sont, quand nous, on arrive en entreprise, les gens sont super contents de se dire « Ah, enfin, ça y est, on va pouvoir trier ». Donc ouais, ils sont hyper réceptifs. Et on va dire que, bon, comme sur tout principe, on a toujours une petite partie qui est récalcitrante, mais ça c'est vraiment minimisé. Ouais. Ça doit être 4-5% de la population à tout casser qui, effectivement, reste récalcitrante un peu au tri. Et les autres s'y mettent très vite parce que les outils aussi sont faits pour, disons que c'est très simple, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment. Ils mettent de la mauvaise volonté,
c'est ça,
de ne pas vouloir s'y mettre.
Quoi. Pour ne pas vouloir le faire, il faut le faire exprès.
C'est ça.
Vous étiez dans le développement durable avant de créer votre entreprise? C'est-à-dire que c'est un univers qui vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes écolo, vous êtes responsable, vous êtes durable. On vous le souhaite.
Alors, je dirais que j'y suis tombée par pur hasard dans le milieu du traitement de déchets. Hein, ça a été lors d'une embauche un peu classique. Et après, effectivement, il y a un affect assez important à cette dimension de développement durable et de faire attention à la planète qui s'est inscrit en moi, donc qui s'est développé. Et donc, à la création d'EasyTree, forcément, effectivement, j'ai cherché à développer plutôt des sujets qui étaient dans mon savoir-faire, mais aussi dans mes valeurs. Donc je suis pas écologiste en soi, je suis responsable, oui, je fais attention effectivement pour moi et d'autant plus pour l'entreprise à tous les achats, aux fournisseurs, enfin voilà, à leur manière, à leur localisation, mais aussi à leur manière de fonctionner. Enfin voilà, on a mis en place dans l'entreprise toute une procédure RSE qui commence à être assez forte et qui du coup a un impact sur nos choix. Et dans le quotidien, oui, j'essaye d'être le plus durable possible.
Voilà, c'est un marqueur fort. Alors, vous êtes d'accord quand on dit que notre planète déborde, hein, c'est vrai. Certains pays font des efforts, effectivement. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin, qu'on doit aller plus loin?
Ah, il faut aller plus loin, il faut aller vite.
Loin. C'est surtout ça aussi.
C'est ça, ouais. C'est vrai que toutes les théories ne sont pas que théories, hein, c'est la vraie réalité. Alors, je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais quand on écoute les spécialistes, effectivement, on voit qu'il y a une urgence.
Et quand
ça,
on observe, nous aussi.
Et quand on observe, nous aussi, effectivement, notre quotidien.
La fonte des glaces, ce n'est pas que des images.
C'est ça. Et moi, ce qui me dramatise un peu, c'est de voir, malgré tout, tous les outils qu'on peut avoir en place et tous les moyens qu'on peut avoir en place dans nos pays, et malgré tout, tout ce qui reste encore à faire, quoi. Donc, on se pose la question de qu'est-ce qui pourrait, effectivement... même si j'ai l'impression quand même que dans les consciences, les gens ont cette préoccupation et commencent à l'intégrer, aujourd'hui, je pense que vous comme moi, quand on se balade, le nombre de déchets qu'on peut voir encore par terre, vrai que on se dit, mais comment c'est possible, quoi. Et voilà.
Une prise de conscience.
Ça génère des surcoûts, ça génère du temps passé à des choses qu'il faut faire, alors qu'on pourrait aller plus loin et mettre d'autres choses en place si au moins ces prérequis étaient faits.
Oui, oui, avec une véritable volonté peut-être à la base. Alors, on parle beaucoup du zéro déchet, notamment. Ça, c'est vrai que c'est une des pistes.
Oui, c'est une des pistes, effectivement. C'est vrai que
d'acheter en vrac, par exemple.
Oui. Ça reste aujourd'hui très, 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 très minoritaire. Aujourd'hui, essentiellement, à ma connaissance, proposé aux particuliers. Donc il y a à mon avis un gros travail de lobbying et à faire au niveau des producteurs et des ceux qui mettent sur le marché, hein. Ça c'est clair que il y a beaucoup à faire
dans certaines collectivités cantines. C'est vrai que ça commence à venir, mais vous avez raison, ça reste
achat local quand même, il y a quand même sur Toulouse, on a la Small Business Act qui est en place, avec effectivement des achats locaux, des achats sur des petites entreprises, etc. mais il y a encore une bonne marche à passer.
Parlons de votre entreprise. Récemment, vous avez eu de la visite de secrétaire d'État, rien que pour vous, hein, ouais, chargé du numérique et le second chargé de la transition écologique et solidaire. Mmh. C'est une récompense pour vous.
C'est une superbe récompense, effectivement, un hasard qui nous est tombé dessus, hein, pour tout vous dire, mais c'est une très très bonne nouvelle. Quand j'ai appris effectivement de la part du préfet qu'on aurait cette visite, ça a été une très très bonne nouvelle et une félicitation de ce qu'on peut faire au quotidien. C'est vrai, quand Madame Poisson dit effectivement qu'Izitri représente l'entreprise emblématique de demain, ça fait plaisir,
ouais,
d'entendre
tout à
ça.
Fait, tout clair. À fait, parce que vous êtes une entreprise... moderne, innovante, connectée aussi.
Ouais, on essaye. Après, j'ai pas la prétention d'être l'entreprise non plus idéale. Voilà, disons qu'à ma mesure, j'essaye de mettre les choses qui me correspondent, qui sont dans mes valeurs.
Dans vos valeurs, ouais.
Et qui me semblent judicieuses à mettre en œuvre par rapport à notre environnement d'aujourd'hui. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire diriger une entreprise comme Izitri, être aux commandes 7 jours sur 7?
Non, j'ai une importance forte, moi, à l'équilibre familial et sociétal et d'entreprise. Donc, j'essaie d'être partagée. J'ai une famille et j'y fais attention aussi. Pour moi, c'est de garder ce bon équilibre. Donc, c'est du 5 jours sur 7. Après, bien sûr, quand on y est à fond.
Ouais, ouais.
Après, ça travaille un peu la nuit et de temps en temps, bien sûr, c'est normal, hein, sur certains sujets. C'est surtout être là au quotidien auprès de ses équipe, en relais, comme un chef d'entreprise, ouais. Voilà, classique, hein, on va dire, hein, mais sur des préoccupations d'avenir, sur la stratégie du développement, uh-huh, et tous ces, uh-huh, sujets-là, quoi.
On se retrouve tout de suite.
Très bien.
Vous restez avec nous. Merci Sandrine.
Merci.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Vos gobelets, Michel, à la poubelle. Bonjour Michel.
Oui,
Dagra.
Bonjour. De toute façon, j'attendais un café ce matin, je ne l'ai pas eu, donc je n'ai pas de gobelets, poubelle, Tintin. Voilà.
Seconde partie de cette émission, ça tombe bien, avec Sandrine Équerrois de la société Izitri, spécialisée dans le traitement des déchets en entreprise.
Voilà. Alors moi, j'ai une question à vous poser, là, qui est un peu trouble-fête, je ne sais pas comment dire. Mais si jamais zéro déchet, d'abord, ce n'est pas un leurre. Il y a des pays et des villes qui en approchent de
tout
très
fait.
Près. Si jamais on arrivait à ce résultat, vous mettez la clé sous la porte.
Ce serait avec grand plaisir, vous voulez que je vous dise, parce que du coup, effectivement,
voilà.
Si on arrivait à cet objectif-là, je pense que ça serait...
Bon, c'est pas demain la veille. Entre
on se
nous,
serait reconverti ou on aurait trouvé d'autres choses, parce qu'il y aura forcément d'autres choses qui arriveront, mais effectivement, vous avez raison, il y a encore un long chemin à parcourir.
Voilà, et puis, il peut y avoir un effet pervers, parce que les gens qui se disent, bon, de toute façon, il y a des gens qui récupèrent les déchets, qui font du blé avec, c'est intéressant, etc. Donc, ce n'est pas la peine de réguler notre consommation. Ils récupèrent derrière. C'est un peu comme les gens qui jettent des canettes et des papiers dans la rue, ils se disent mais ça donne du travail aux autres. Si jamais on ne fait pas ça, les types ils vont se retrouver au chômage. Alors bon, pour sortir de l'anecdote, c'est quand même une question de fond beaucoup plus grave. Si on arrive à réguler la consommation, à être un peu plus sage et à équilibrer tout ça, mais ça va... Si on arrête les voitures, mais les gens qui travaillent à ça... récemment, j'ai écouté une conférence où le conférencier prenait l'exemple suivant. Le pêcheur doit pêcher pour gagner sa vie. S'il s'arrête de pêcher, il crève. Hein. Donc, mais il y a de moins en moins de poissons, donc il va toujours plus loin. Et il finira par crever la réserve halieutique. Donc, dans les deux cas, il claque. Mmh. Et c'est un peu comme le colibri de Rabi, hein, de Pierre Rabi, qui porte sa goutte d'eau dans un incendie de forêt, il ne va pas arrêter l'incendie, mais il fait sa part. Mmh. Alors il y a cette sorte de paradoxe là, entre... c'est un peu comme si on jouait du violon pendant que le Titanic sombre. C'est un peu négatif, comme je l'avoue. Mais
oui,
enfin,
c'est quand même.
C'est pour vous stimuler là, de la réflexion.
Je dirais que... Ben, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux vous répondre? Vous dire que c'est évident, enfin, ce que vous dites, vous avez raison, mais après, moi je pense qu'il y aura forcément une transformation des métiers, que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain, ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est évident qu'il y aura effectivement peut-être moins de voitures à essence qui seront produites, mais du coup d'autres moyens de locomotion, peut-être d'autres systèmes, bon l'électrique bien sûr, mais peut-être d'autres systèmes, et donc ça génère d'autres emplois, etc. Bon, nous, très clairement, Izitri, on travaille, c'est l'effet papillon, hein, notre entreprise, hein, c'est qu'effectivement, c'est aller chercher des kilos qui jusqu'à présent partaient en fumée, sur des déchets classiques. Et c'est aller chercher un kilo par-ci, 3 kilos par-là. Et voilà, au final, on est aujourd'hui à 2 tonnes par jour. Donc, c'est pas négligeable. Voire un peu plus, même aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est vraiment ça, notre travail du quotidien. Et au-delà de ce qu'on collecte, ce qui est important aussi dans notre métier, c'est la sensibilisation qu'on apporte autour. C'est-à-dire qu'on essaie de communiquer. Et de faire valoir l'action de la personne pour qu'elle le reproduise et qu'elle sache pourquoi elle le fait et que demain, elle continue à le faire,
D'accord, oui, je vois bien. Mais dans votre entreprise même, j'imagine qu'il y a un impact et que vous jetez moins de papier.
Bien sûr, Oui, c'est évident que surtout notre...
Vous êtes en train de pratiquer vous-même ce qui...
Oui, au-delà du papier, on fait attention, on est passé en voiture électrique sur quoi on peut. Ouais. On fait attention à tout ce que, comme je vous le disais, à tout ce qu'on achète, où on l'achète, comment on l'achète. Alors après, on n'est pas non plus...
Vous êtes un très mauvais client de vous-même.
Voilà. Disons qu'on n'est pas encore à zéro déchet, mais on essaye en tout cas de faire attention à notre impact.
Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est 16 personnes sur Toulouse, et puis là, des embauches à venir sur 2018, on devrait monter à 18-19.
Et vous avez des marchés pour l'instant sur toute la France ?
Alors aujourd'hui, l'entreprise a été créée à Toulouse, le développement se fait en développement de franchises sur le territoire national. Donc on a effectivement des franchises, quelques-unes sur le sud de la France principalement, avec des marchés qui peuvent être sur Nice, sur Bordeaux, sur Brive et sur Toulouse.
Pour l'instant, France, Europe.
Alors Europe, on y pense, pourquoi pas, bien sûr. Ça fait partie des marchés potentiels, puisque nos voisins ont pas tout à fait les mêmes mentalités, mais ont pas forcément des services équivalents à ce que vous
proposez. En Allemagne, il y a déjà ce type de service qui fonctionne bien. C'est vrai, ils ont une sensibilité
plus forte et plus ancrée dans leur gène.
Michel, une autre question.
J'imagine que ce travail touche aussi les mentalités dans votre entreprise. Quelle est l'ambiance à ce sujet ? Parce que la sensibilisation aux questions d'environnement, ça doit être vraiment un premier chez vous, non ?
Oui, c'est important. Alors, c'est vrai que lorsque l'on a des recrutements, justement, moi, aujourd'hui, j'entends beaucoup des gens qui sont capables de lâcher leur job aujourd'hui pour venir chez nous parce qu'ils trouvent un sens à leur travail, qu'ils ont des valeurs qui leur sont proches, etc. Donc, il y a aussi, on est d'accord... ça insuffle autre chose que simplement venir travailler dans une entreprise. Ouais. Disons qu'il y a une éco-responsabilité qui se met en œuvre, tout à fait.
Et est-ce que vous avez des relations avec la société civile qui se préoccupe de ces questions d'environnement ? On voit régulièrement une espèce de stand de foire là, qui présente tout un tas de choses naturelles, d'économie, familiale, etc. Il y a des relations entre votre entreprise et ce milieu ?
Ben, je dirais que oui, assez naturellement, on est en relation avec certaines associations et autres. On est des fois partenaires sur certains événements avec eux. Et puis, comme je disais, on est quand même, de fait de notre sensibilisation, je pense, en tant que citoyen, mes salariés peuvent être des acteurs dans certaines associations ou dans dans leur village, et ils sont aussi porteurs de ces messages-là, Donc, du coup,
Et la motivation ultime, alors j'avais sur un terrain peut-être un peu plus métaphysique, mais qui consiste à se dire, mais cet environnement dans lequel nous sommes, il nous a été donné, nous sommes beaucoup plus des gestionnaires que des propriétaires. Et le milieu ambiant est beaucoup plus du côté d'un fonctionnement de type propriétaire. Là, il y a une espèce de contestation philosophique entre ce que vous faites et ce qui est vécu autour.
Oui, c'est vrai. Je reconnais qu'on ne se pose pas toujours la question au quotidien, mais vous avez raison, il faudrait peut-être se la poser de façon plus fondamentale.
Ouais, mais je suis bien content de vous laisser avec cette question. Elle est aussi importante pour moi.
On se la pose tous. Est-ce qu'il serait intéressant, peut-être le faites-vous, d'aller sensibiliser les enfants dans les écoles ?
Alors, on peut le faire, effectivement, ça nous est déjà arrivé de le faire, ça nous a été demandé, alors plus sur des sollicitations, parce que c'est vrai que c'est pas notre job bien du sûr, quotidien. Moi, je serais ravie de pouvoir mettre en œuvre dans les écoles de Toulouse, effectivement, des petits collecteurs, pour éduquer. Parce que malgré tout, même s'ils ont l'habitude de le faire, d'avoir les outils qui leur sont proposés et de voir aussi quel impact ça peut avoir et de leur donner un peu de communication sur le sujet, je pense que ça serait plutôt pertinent. Mais bon, ça peut pas être fait gracieusement par Isitri. Donc voilà, il faut qu'on arrive à rentrer dans ces écoles et à convaincre les mairies, donc ce qui est pas toujours simple. Et après, on va le faire là de façon imminente, alors sur la partie des biodéchets. puisqu'on fait également la collecte des biodéchets, hein, donc tout ce qui est déchets de restaurant. Uh-huh. Et donc là, on vient de gagner l'hôtel du département, avec l'hôtel du département, un grand marché qui va nous permettre de venir collecter les déchets des collèges. Donc on va avoir une action de sensibilisation, effectivement, auprès de ces publics-là.
Déchets uniquement, déchets papier ou...
Alors non, là, c'est essentiellement les biodéchets. Le marché porte essentiellement là-dessus. D'accord. Donc c'est sur le gaspillage, en fait, hein, c'est le gaspillage alimentaire. Bon, après, bien sûr...
Les 30% de nourriture qui sont jetées.
C'est ça, 30%, voire même des fois plus sur certains établissements, ça. Suivant les menus, ouais, tout à fait.
Ouais, ça, c'est important.
Donc, voilà.
Michel, une autre question ?
Ben non, j'en ai plus, je suis content de vous avoir entendu. Ça me... Oui, peut-être, tenez, vous avez parlé d'outillage que vous mettiez vous-même en place, en dehors des broyeurs de papier et des caisses pour récupérer les cartouches ou les gobelets. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel ?
Alors, en fait, ce sont des outils qui nous appartiennent, donc qu'on développe nous-mêmes. Donc, il y a effectivement des petits modules pour le papier. On a un meuble à déchets, ce qu'on appelle, donc c'est un meuble qui centralise sur un point dans l'entreprise, pour les piles, pour les néons, pour les cartouches, pour les stylos, pour le papier. Donc c'est quelque chose d'assez esthétique et qui justement est communicant pour l'interne comme l'externe. On a donc le collecteur à gobelets, hein, donc pareil en métal. Tous nos outils, on a un partenariat avec des ateliers pénitentiaires. En fait, ce sont des ateliers pénitentiaires et des gens dans la réinsertion qui fabriquent ces outils-là. Ensuite, on a l'EasyCube, ce qu'on appelle, donc qui est plutôt dédié à l'événementiel, donc justement pour lors des événements, des manifestations et autres, pouvoir trier les canettes, les bouteilles et du reste. Uh-huh. Et ensuite, les outils pour tout ce qui va être les biodéchets, donc ça c'est un petit peu plus standard, c'est plutôt du domaine des bacs. Mmh.
Dernière question, il est déjà l'heure de nous quitter. Est-ce que ça coûte cher pour une entreprise d'avoir cette démarche ? Déjà, elles n'ont plus le choix désormais, mais combien ça coûte ?
Alors nous, en termes de prestations, on a un forfait qui commence à 35 € par mois. Mm-hmm. Donc on va dire que c'est plutôt abordable, sachant que nos tarifs intègrent, au-delà de la prestation, comme je disais tout à l'heure, puisqu'ils sont clés en main, on intègre donc la traçabilité, tout ce qui est registre, certificat de destruction, et également tout ce qui est communication. Donc c'est vrai que pour 35 € par mois, on a un budget qui est quand même très minimisé, avec un impact et en termes de fédération d'équipes, de communication interne, externe, et bien sûr d'impact pour l'environnement et de respect de la réglementation. Après, on a des forfaits en fait qui sont calculés en fonction du nombre d'outils, hein, donc
en
fonction de l'entreprise. Voilà, on a 100 €, 200 €. Enfin voilà, après tout est possible suivant la taille de l'entreprise et des besoins et des flux qu'elle a à recycler, quoi.
Merci beaucoup, on vous trouve facilement sur le net.
Tout à fait, sur www.easytree.fr.
Merci Sandrine, merci à vous.
Merci.
Michel Dagras, vous
merci
souhaitez
beaucoup.
Nous joindre, c'est très simple. Écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.